Bonjour Patrick Stroman.
Bonjour.
Avec votre livre, on découvre en effet à quel point Lisbonne a été une ville ouverte, particulièrement en 1940, puisque c'est là, dans la capitale portugaise, que des milliers d'émigrants se sont retrouvés, se sont précipités même, avec l'espoir de monter à bord d'un navire pour les Amériques. Plusieurs raisons expliquent ce phénomène exceptionnel, à commencer peut-être par des circonstances géopolitiques. Est-ce que vous voulez bien nous rappeler pourquoi Lisbonne était le dernier port vers la liberté?
Je pense essentiellement parce que le gouvernement portugais a pu rester neutre pendant la guerre. Cela, bon, pour des raisons diplomatiques, parce qu'il y avait un très vieil accord entre le Portugal et l'Angleterre, et ça leur permettait surtout donc de se tenir un peu à distance de l'Allemagne et de l'Espagne. C'était une des raisons pour lesquelles, lorsque Paris est tombé et que Marseille n'était plus un port ouvert, tous les réfugiés, dont beaucoup s'étaient déjà réfugiés dans un premier temps en France, ont dû quitter précipitamment, donc, au vu de l'avancée des troupes allemandes, le territoire français, ont traversé les Pyrénées et donc se sont rendus à Lisbonne où effectivement se trouvait le dernier port qui leur permettait donc d'envisager une traversée de l'Atlantique.
Alors, c'est aussi lié à l'hospitalité dont les Portugais ont toujours fait preuve. D'ailleurs, l'un d'entre eux a incarné formidablement ce sens de l'accueil, à savoir le consul Aristides de Sousa Mendes, qui a accordé plus de 2800 visas entre le 1er janvier et le 22 juin 1940. C'est extraordinaire et en même temps, on l'a presque oublié.
C'est un personnage effectivement absolument extraordinaire. 2800 visas, c'est vraiment la limite basse, hein, je ne voulais pas exagérer les chiffres. C'est un homme qui a agi en toute conscience. Il s'est opposé à Salazar et donc à son gouvernement et notamment à son ministre des Affaires étrangères qui lui interdisait formellement donc d'émettre des visas pour les Juifs et pour tous ceux qui étaient soupçonnés d'être de près ou de loin des communistes. Il a donc sciemment enfreint la règle par conscience catholique. C'était un homme catholique, c'était un homme absolument. Il avait une biographie vraiment incroyable. Il avait 14 enfants. Il a trouvé le temps et la disponibilité de tomber amoureux d'une Française. Et donc, il avait une maîtresse qui, aussitôt qu'elle était tombée enceinte, donc lui avait révélé qu'il attendait qu'il allait être le père d'un 15e enfant. Donc, il a à la fois mené de front son combat politique et je dirais morale vis-à-vis de son autorité, en fait de son ministère. Et puis il a su gérer plus ou moins sa vie familiale. Donc c'est une vie absolument extraordinaire. Et vous dites à juste titre, il est donc effectivement vraiment mort dans la misère parce qu'après avoir donc après s'être opposé à cette directive du gouvernement portugais qui lui interdisait de signer ces visas, il avait été blacklisté, comme on dirait aujourd'hui. Donc, il a perdu sa solde, il n'avait plus d'affectation et il est mort dans la misère. Il est mort oublié aussi de quasiment tout le monde. Et ce n'est que dans les années 80, si mes souvenirs sont bons, qu'il a été réhabilité, donc à la fois par un gouvernement donc européen, maintenant socialiste, et puis il a été aussi reconnu comme injuste donc par Israël.
En revanche, on a des souvenirs de cette époque grâce aux témoignages des nombreux intellectuels et artistes qui sont passés à Lisbonne en 1940, de Jean Renoir à Man Ray, Jean Giraudoux, Hannah Arendt, sans oublier Antoine de Saint-Exupéry, Julien Green, voire, si j'ai bien lu, Ian Fleming, l'auteur de James Bond. Ils doivent tous, ou en tout cas pour la plupart, leur salut à la main tendue par Lisbonne.
Tout à fait. Alors, il y avait beaucoup de réfugiés, vous les avez cités, pour un certain nombre d'entre eux. Ils se trouvaient également à Lisbonne parce que c'était donc un point de passage obligé. Jean Renoir, par exemple, il n'était pas réfugié. Il était il avait eu même l'autorisation de Vichy de quitter le territoire. Il n'était pas vichyste, mais enfin, il avait envie, l'opportunité d'aller travailler aux
Aux
États-Unis.
États-Unis.
Donc, à Hollywood, il a saisi l'opportunité. René Clair était réfugié, il était déserteur, hein, parce que, donc il a quitté clandestinement le pays. Giraudoux, il était à la recherche de son fils qui, lui, était parti s'engager à Londres avec le général de Gaulle. Donc, ce qui m'avait attiré dans ce sujet, c'est aussi qu'il y avait plein de destins complètement différents qui se sont croisés. J'ai eu un peu le déclic pour écrire ce livre lorsque j'ai réalisé que, donc, justement, Jean Renoir et Saint-Exupéry s'étaient retrouvés, ils s'étaient connus auparavant à Londres, ils s'étaient croisés. Mais il s'était retrouvé à Lisbonne sans savoir que l'autre était également présent. Et ils ont pris une cabine sur le même navire. Et ils ont fait la traversée ensemble.
Et une amitié s'est nouée entre les deux hommes.
Une amitié, donc il y avait un projet de collaboration qui n'a pas vraiment donné. Il y avait donc Renoir avait prévu d'adapter un des livres de Saint-Exupéry. Le projet n'a pas abouti, mais enfin il y a une magnifique amitié qui est née donc sur ce bateau. Et puis il y a les lettres, notamment de Saint-Exupéry à l'adresse de Jean Renoir, qui témoignaient de cette amitié.
Alors une autre raison qui vous a poussé à écrire ce texte, Patrick Stroman, c'est le passage de votre propre grand-père à Lisbonne, sauf que lui est parti aux États-Unis, mais il est revenu pendant la Seconde Guerre mondiale. Pourquoi ? Il ne croyait pas à la tragédie européenne, bientôt mondiale, qui menaçait ?
Alors, excellente question. Effectivement, même après avoir écrit le livre, je n'en sais toujours pas plus sur les raisons qui l'ont poussé à revenir. Alors, il y avait des raisons administratives, familiales. Il y avait aussi le fait que sa perception à la fin de 1940 de l'avenir politique, de l'horizon politique, était sans doute différente de ce que nous, on peut savoir a posteriori. Je trouve toujours très énigmatique que quelqu'un qui, d'origine juive, donc qui est d'origine polonaise, est-européenne, donc qui en quelque sorte a connu la persécution, notamment à travers les pogroms en 1905 en Europe de l'Est, qui a connu la menace et qui pourtant a décidé de revenir. Alors pour moi, ça reste un mystère un peu familial par rapport au texte, ce n'est pas très important. Ce qui m'a importé, c'est de voir que finalement, à travers sa trajectoire, lui qui est né en Pologne et donc qui s'est installé en Suisse et qui a fait un voyage aux États-Unis, bon, comme vous le dites, il est revenu, il a quand même fait le même voyage que des dizaines de milliers d'autres personnalités connues et inconnues, anonymes, ont effectué. Donc, c'est cette résonance entre son histoire qui s'était tirée sur tout le siècle, et puis ses destins très individuels qui, parfois, pour certains, se sont joués en l'espace de quelques mois, voire quelques semaines. Ce parallèle m'a beaucoup séduit et donc m'a convaincu finalement de donner cette biographie familiale et de la confronter aux autres récits.
À l'heure des importants flux migratoires, à l'heure des bateaux humanitaires que l'on refoule aux portes de l'Italie et de la France, des familles d'émigrants séparées de leurs enfants, est-ce que Lisbonne en 1940 n'est pas une leçon à retenir ?
Alors c'est certainement, il y a évidemment là aussi des résonances qui me paraissent si évidentes que je n'ai pas voulu les nommer. Hein. C'est de toute façon une grande leçon, d'abord parce que c'était quand même une ville, un pays extraordinairement accueillant. Et au regard de la condition dans laquelle les Portugais ont vécu en 1940, parce que les colonies ne rendaient plus grand-chose, et c'était encore une fois un pays qui souffrait, qui n'était non pas dans la misère et qui n'a jamais été touché par la guerre, mais enfin, qui était quand même...
Vivaient sous une
dictature. Et donc, que les gens aient quand même accepté d'accueillir autant de monde, alors que les infrastructures étaient si peu nombreuses, je pense que c'est une belle leçon, oui, effectivement.
Et un modèle à suivre aujourd'hui, peut-être ?
Je le pense, oui. Je pense que c'est évidemment... C'est toujours difficile de faire des comparaisons historiques, mais en tout cas, voir nos réactions d'Européens au regard de du destin de beaucoup de migrants, alors que nous vivons dans une situation infiniment plus meilleure et nous profitons d'une richesse infiniment plus grande, et nous avons concrètement infiniment plus de possibilités, effectivement, de mettre en place les structures qui permettraient d'accueillir correctement des migrants. Oui, effectivement, je pense que là, il y aurait beaucoup à dire.
Merci beaucoup, Patrick Stroman.
Merci à vous.
Je rappelle le titre de ce livre, Lisbonne, ville ouverte, qui a paru aux éditions Chandaigne.